Polikouchka, chapitre 12. La fête fut assez tristement célébrée dans les cours de Pokrovski. Quoique la journée fût belle, les rues étaient à peu près désertes, les jeunes filles ne se réunissaient point pour chanter des chœurs, les ouvriers venus de la ville ne jouaient ni de l'accordéon ni du balalaïka et ne riaient pas avec les jeunes filles. Tous demeuraient dans leur coin, et s'ils parlaient, c'était à voix basse, comme s'il y avait eu quelque mauvais esprit qui pût les entendre. La journée se passa encore tant bien que mal. Mais le soir, quand il commença à faire noir, les chiens hurlèrent. Le vent se leva et siffla dans les cheminées, et la terreur étreignit tous les habitants de la maison des Dvorovi. Ceux qui avaient des cierges les allumaient devant les icônes. Ceux qui se trouvaient seuls dans leur coin allaient demander l'hospitalité à leurs voisins. Tel, qui avait à se rendre à l'étable, ne s'y rendit point, sans pitié pour ces bêtes laissées jusqu'au matin sans nourriture. Et l'eau bénite, précieusement conservée dans de petits flacons, fut entièrement consommée pendant cette nuit-là. Plusieurs, même, entendirent cette nuit quelqu'un se promener d'un pas lourd au-dessus de leur tête, et le maréchal Ferrand vit distinctement un serpent qui volait droit au grenier. Dans le coin de Poliquet, d'où la folle et les enfants avaient été emmenés, les voisins récitaient les psaumes des morts avec deux petites vieilles et une religieuse qui, dans l'ardeur de son zèle, lisait les psaumes non pas seulement pour l'enfant, mais pour tous ses malheurs. Ainsi l'avait voulu la Barigna. Les petites vieilles et la religieuse entendirent, elles aussi, la poutre trembler et quelqu'un sangloter là-haut à la fin de chaque psaume. Et tout rentrait dans le silence quand on lisait que Dieu était ressuscité. La femme du menuisier avait invité sa commère. Toutes deux, cette nuit, s'endormirent, burent force thé, toute la provision de la semaine. Elles ouïrent également trembler les poutres là-haut, et des sacs, eût-on dit, tombaient sur le plancher. Tous seraient morts de peur sans les moujiks de garde, qui rendirent quelque courage aux Dvorovi. Ces moujiks s'étaient couchés dans le vestibule sur du foin. Ils assurèrent ensuite avoir ouï pareillement des prodiges dans le grenier, quoiqu'ils eussent passé cette nuit à parler tranquillement entre eux du recrutement, à mâcher du pain, à se gratter. Ils remplirent le vestibule d'une odeur caractéristique de moujik, à tel point que la femme du menuisier se mit à cracher en passant et à dire, d'un ton insultant, que c'était bien là de vrais moujik. Quoi qu'il en fût, le pendu pendait toujours au grenier, et il semblait que le mauvais esprit lui-même eût, pendant cette nuit, couvert de sa grande aile, la maison des Dvorovi, et, plus près d'eux que jamais, les teint sous son influence maléfique. Du moins, c'était ce que chacun croyait. Je ne sais si cette croyance était fondée. Je pense même qu'elle n'était pas fondée du tout. Je pense que si un homme courageux, pendant cette nuit d'épouvante, avait pris une bougie, une lanterne, si, faisant un signe de croix ou même sans signe de croix, il était entré dans le grenier et, déchirant lentement devant lui, par la flamme de sa bougie, la terreur de la nuit, éclairant les poutres, le sable du parquet, les tuyaux du poêle couverts de toile d'araignée, les pèlerines oubliées par la femme du menuisier, il avait marché jusqu'à Ilitch sans se laisser gagner par l'épouvante et levé la lanterne à la hauteur de son visage, alors il aurait aperçu le corps bien connu de Poliquet, maigre, les pieds sur le sol, la corde s'était allongée, inclinée d'un côté, comme une masse inerte, la chemise déboutonnée sur le cou, qui ne portait plus de croix, la tête retombée sur la poitrine, et ce bon visage aux yeux ouverts et fixes, qui ne voyait plus, ce sourire doux et coupable, avec un air de sévérité sévère, et un apaisement dans tout le corps. Ma foi, la femme du menuisier, blottie dans le coin de son lit avec ses cheveux en désordre, ses yeux hagards, et prétendant ouïr comme des bruits de sacs qui tombent, était certes plus terrible, plus effroyable d'aspect qu'Ilitch, quoiqu'on l'eût dépouillé de sa croix pour la poser sur la poutre. En haut, c'est-à-dire chez la Barigna, la même terreur sévissait. Il régnait dans sa chambre une odeur d'eau de Cologne et de pharmacie. Dounyasha chauffait de la cire jaune et la versait dans de l'eau froide. Pourquoi faisait-elle du spousk? Je ne sais, mais on en faisait chaque fois que la Barigna se trouvait indisposée. Et, à cette heure, elle était bouleversée jusqu'à en être malade. La tante de Dounyasha, pour lui donner du courage, était venue passer la nuit avec elle. Toutes les quatre étaient assises dans la Dievitchia, avec la petite Akyutska, et causaient. « Et qui ira chercher de l'huile ?» demanda Dounyasha. « Pour rien au monde, je n'irai !» fit d'un ton décidé la seconde servante. « Voyons, vas-y avec Aksiutka !»« Moi, j'irai bien toute seule, je n'ai pas peur !» dit Aksiutka, qui se sentit aussitôt envahir par la peur. « Eh bien, va, petite vaillante, demande-en à la babouchka Anna dans un verre et apporte-le sans le renverser !» lui dit Dounyasha. Aksiutka prit d'une main sa robe. Comme ce mouvement l'empêchait de mettre ses deux bras en branle, elle fit aller deux fois plus vite le long de son corps, sa main restée libre, et vola. Elle avait peur. Elle sentait que si elle voyait ou entendait n'importe quoi, fût-ce sa propre mère, elle mourrait de terreur. Les yeux fermés, elle volait par le sentier qui lui était familier.